Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani en direct de la maison de la presse de Bamako, il est 18h, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché hier sur la situation sécuritaire au Sahel. À cette réunion, l'ambassadeur du Mali à l'ONU a réclamé une aide matérielle et financière aux Nations Unies comme contribution à la création de la force du G5 Sahel. Certains analystes estiment que les conditions n'ont pas changé et que les États-Unis sont toujours réticents à accroître leur contribution aux missions de l'ONU. Selon eux, il faudra attendre la conférence des bailleurs de fonds prévue le mois prochain pour être située par rapport à la question. La plateforme Inter Abana Touche pas ma constitution a reporté sa marche initialement prévue aujourd'hui. Selon ses responsables, le mouvement a entamé depuis quelques jours des consultations avec les leaders religieux et coutumiers qui lui ont demandé de sursoir aux manifestations. Pèlerinage 2017 sur les 13 000 pèlerins inscrits, 12 000 sont déjà arrivés en Arabie Saoudite. Un millier de pèlerins doivent les rejoindre dans les prochains jours. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le Conseil de sécurité s'est penché hier sur la situation sécuritaire au Sahel au lendemain des attentats terroristes au Mali et au Burkina Faso. Au cours de la réunion, l'ambassadeur du Mali à l'ONU a réclamé une aide matérielle et financière comme contribution des Nations Unies à la création de la force du G5 Sahel. Assetou Kanté.
L'ambassadeur malien a appelé tous les pays amis et organisations internationales partenaires à aider le G5 Sahel à boucler le budget pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Forte de 5 000 hommes, le budget prévu pour la force est estimé à plus de 400 millions d'euros. À ce jour, seulement une centaine de millions d'euros sont assurés. Le diplomate malien a déclaré que les récentes attaques au Mali et au Burkina soulignent l'importance et l'urgence de créer une force conjointe entre pays du Sahel avec l'appui de la communauté internationale. Selon Issa Konfourou, les besoins immédiats sont l'équipement pour les bataillons, un réseau de communication pour les unités et une aide pour l'évacuation médicale d'urgence. Il a indiqué que l'objectif est de déployer les premières unités en octobre et que tous les bataillons soient opérationnels en mars avec une priorité accordée aux opérations militaires transfrontalières. Lors de son intervention, la représentante adjointe de la France, Anne Guéguen, a aussi souligné la nécessité d'une réponse urgente à la déstabilisation de la zone sahélienne par des groupes armés. Son homologue américaine, Michelle G. Simpson, a plutôt insisté sur les relations bilatérales pour améliorer les capacités militaires des membres de la force conjointe.
Cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pourra-t-elle accélérer l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 au Sahel? Souleymane Drabo, éditorialiste à l'Essor, pense que non. Selon lui, les conditions n'ont pas changé et les États-Unis sont toujours réticents à accroître leur contribution aux missions de l'ONU. Il estime qu'il faudra attendre la conférence des bailleurs de fonds prévue le mois prochain à Berlin. Souleymane Drabo, joint par Amadoune Amamaïga.
Malgré l'optimisme qui est déployé par tous les analystes depuis ce matin, qui table sur le fait que les attentats à Ouagadougou et à Tombouctou et Douanza créent, si vous voulez, une sorte de déclic qui va convaincre le Conseil de sécurité d'appuyer les demandes de financement des pays du G5 Sahel. Moi, je pense que les conditions n'ont pas changé. Vous savez que ces conditions sont basées sur le refus, par exemple, des Américains qui sont le plus gros donateur des missions de maintien de la paix de l'ONU d'accroître leur contribution. Ils sont même dans la logique de diminuer leur contribution. Donc moi, je ne pense pas que fondamentalement les conditions ont changé. Je pense qu'on aura droit de la part du Conseil de sécurité à une condamnation des principes comme ils ont fait jusqu'à présent. Et encore une fois, ils vont se baser sur la bonne volonté de la France et de l'Allemagne qui vont appuyer lors de la conférence des bailleurs de fonds du G5 Sahel qui aura lieu à Berlin le mois prochain.
Après ces attaques survenues au Mali et au Burkina Faso, le président Ibrahim Boubacar Keïta demande aux pays du G5 au Sahel d'unir leurs forces. Il l'a déclaré hier lors de sa visite au Burkina Faso suite à l'attentat terroriste qui avait fait plus de 18 morts dans la capitale de ce pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta au micro de nos confrères de RFI.
Cette douleur vive que, encore une fois, on fait subir au peuple du Burkina, comme au peuple du Mali, le mien, à Touanza, à Tombouctou, est l'une des raisons pour lesquelles nous avons estimé devoir unir nos forces, rassembler nos moyens de tous ordres, humains, matériels, d'intelligence, pour faire face à ces monstres hideux, sans visage, qui surgit dans ne sait où, mais avec le projet déterminé de massacrer, de tuer, comme on l'a vu ici à Ouaga. Dire que le G5 Sahel, comme tout le Sahel, est uni dans cette douloureuse circonstance et que nous ne baisserons pas les bras. Et peut-être le temps est venu aussi pour nous de changer quelques habitudes. Le doux temps de l'insouciance est terminé. Et nous sommes obligés d'admettre que nous sommes quelque part dans une situation aujourd'hui où, à tout moment, nous pouvons être agressés. Que donc chacun de nous fasse preuve de la plus grande vigilance.
Et réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamanu et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également attendues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Un calme précaire régnait ce matin à Tombouctou suite à l'attaque terroriste contre le quartier général local de l'aménagement. Des présumés terroristes avaient tenté hier soir de s'emparer à l'hôpital régional des corps des 5 assaillants abattus lors de l'attaque. Toutefois, selon certaines sources, la réaction des forces armées maliennes les a déroutés. Yaya Tandina, le correspondant du quotidien Le Sort à Tombouctou, il est joué au téléphone par Fatma Tatoula.
Le jour même, en réalité, la panique était restée parce que la ville était restée timide. Le marché était moins ouvert comme auparavant. Le personnel local de l'aménagement n'a pas travaillé et cela a beaucoup contribué à rendre timides les activités de la ville. Ensuite, dans l'euphorie, des bandits se sont pris également à des voyageurs qui sont arrivés pour tirer le fleuve. Tout cela a contribué à semer la panique dans la ville. Et hier soir également, au niveau de l'hôpital, des hommes armés ont été remarqués qui étaient venus pour enlever les corps de ces gens. Et tout de suite, je crois que l'armée a pris les dispositions pour pouvoir sécuriser le périmètre. Et ce matin, j'ai vu le véhicule du CICR. Ils sont venus, je ne sais pas maintenant s'ils ont enlevé les corps ou pas. En tout cas, ils sont en face de la morgue. Et certainement que parce que c'est l'organisation humanitaire en charge de cette situation pour pouvoir évacuer ces corps.
La plateforme Inter Abana touche pas à ma constitution a reporté sa marche initialement prévue aujourd'hui. Selon ses responsables, le mouvement a entamé depuis quelques jours des consultations avec les leaders religieux et coutumiers qui lui ont demandé de s'asseoir aux manifestations. La plateforme a à son tour chargé les leaders religieux et coutumiers de convaincre le président de la République de retirer le projet de révision constitutionnelle au plus tard le 18 août. Amadou Thiam, premier vice-président de la plateforme, il est au micro d'Amadou Amamaïga.
Je crois qu'il est important de signaler que depuis 2 à 3 jours déjà, nous avons été entrepris par les notabilités de Bamako, les chefs religieux musulmans et chrétiens. Nous avons été également entrepris par tous les chefs de quartier de Bamako. En plus de cela, il y a nos communicateurs traditionnels qui ont rencontré le président de la République. Le président de la République leur a notifié, leur a rassuré du fait qu'il allait s'asseoir à son projet de référendum. Et qu'il allait également rencontrer la plateforme Inter Abana pour une consultation. Et en troisième lieu, qu'il leur mandate de pouvoir mener cette médiation. Et alors, la requête qu'ils ont eu à faire à la plateforme Inter Abana a été soumise de façon démocratique à l'Assemblée générale cet après-midi. Cette doléance était de s'asseoir à notre activité de demain, qui va être programmée et pour une date assez proche.
Le départ des pèlerins pour la Mecque se poursuit sur les 13 000 inscrits pour les Hajj 2017. Déjà 12 000 sont arrivés en Arabie Saoudite. Un millier de pèlerins doivent les rejoindre dans les prochains jours. Selon le directeur général de la Maison du Hajj chargée de l'organisation du pèlerinage, tous les pèlerins seront sur place au plus tard le 22 août. Hamza Maïga, directeur général de la Maison du Hajj, au micro d'Ousmane Diko.
On a fait 8 vols pleins de la filiale gouvernementale et nous continuerons à gérer la situation avec les agences privées comme ils n'ont pas fini. Donc ça va continuer jusqu'au mardi prochain si tout va bien. Cela veut dire que le 22 de ce mois courant, mois d'août 2017. Donc on est là avec les agences de voyage. La majorité de la filiale gouvernementale et ils sont arrivés à la Médine. Il y a d'autres aussi qui ont fini leur séjour de Médine. Ils ont continué vraiment vers la Mecque maintenant. On a que sur la filiale gouvernementale 10 pèlerins qui nous restent à problème de passeport qui doit être réglé aujourd'hui même. On aura leur passeport. Quand on aura leur passeport aujourd'hui, on va leur faire les visas demain. Donc demain, il y a un vol dans l'après-midi. Ils vont embarquer et aussi, ils vont rejoindre les autres qui sont déjà là-bas. À la date d'hier, on a constaté que vraiment sur les 13 000 et quelques pèlerins, il y avait 12 000 et quelques qui sont déjà arrivés en Arabie Saoudite.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, suite à l'attaque du camp de l'aménagement à Douanzan le lundi dernier, 50 talibés du marabout Oumar Fikir ont été interpellés tôt ce matin par une mission conjointe de l'aménagement et de la gendarmerie. Ces personnes suspectes résident près de la zone de l'attaque. Selon une source sur place, des investigations et les interrogations se poursuivent dans la localité. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, mène depuis ce matin une enquête sur les raisons de la migration clandestine à Ansongo, dans la région de Gao. Plus de 300 jeunes de la commune sont concernés par cette étude. L'objectif essentiel de cette enquête est de recenser les raisons qui engendrent la migration afin de tenter de trouver les moyens de freiner les phénomènes. Une concertation dans le domaine sanitaire se tient depuis ce matin à Sikasso. Elle regroupe les associations de santé communautaire du cercle de Sikasso. La rencontre vise à renforcer l'implication et la participation des différents acteurs locaux dans la mise en œuvre des programmes de la santé de l'enfant et de la mère. La rencontre qui prend fin aujourd'hui est organisée par la coordination locale des ASACO. Plus de 1500 travailleurs de l'entreprise Satom en charge de la construction de la route Bamako-Kulikoro ont été licenciés le vendredi dernier. Selon les sources locales, cette vague de licenciements est due à un surplus d'employés dans différentes sections et bureaux de l'entreprise. Cette décision des responsables de la société a provoqué un sentiment d'indignation au sein de la population locale. Le grand dialogue, c'est dans quelques 4 minutes. Ce sera avec Aliou Sidibé qui est déjà présent dans ce studio. Bonsoir Aliou.
Bonsoir Sidou Fomba.
Le sujet du jour, c'est l'enseignement communautaire.
Oui, l'intégration des enseignants des collectivités. On veut voir où se situe le blocage, puisque les enfants des écoles communautaires, les enseignants des écoles communautaires disent être confrontés à de sérieux problèmes. Alors les responsables dénoncent la non-prise en compte de certaines de leurs revendications. Nous allons faire l'état des lieux. Et sur le plateau, maintenant, l'association mise en place par ces enseignants sera représentée. Il y aura une enseignante à la retraite sur le plateau, la FENAPEM, c'est-à-dire la Fédération nationale des parents d'élèves, et aussi un syndicat d'enseignants.
Bon débat, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec une mise en onde de Salim Diouara. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute dans un instant les magazines.